Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord un retour sur la course nautique Sydney-Hobart avec Black Jack qui remporte l'édition de 2021. On écoute le skipper Mark Bradford.
Yeah, it was tough in the beginning. The first 30 hours was pretty rugged and then it lightened out. But yeah, great to get the win. Pete and I have been working on this for 14 years. Yeah, 14 years, so it means a lot. We had a tough race with both the other boats. We dropped Scallywag near the end for a bit, but she came back, and then Law Connect was right there the whole way. They led us for a bit, but we clawed it back at the end, and when it gets light, this boat's so special, so yeah.
En mode cricket, les Ashes, le quatrième test match, ce sera à Sydney à partir du 1er janvier. Mais mardi, après la victoire australienne, c'est Scott Bolan, un sportif d'origine aborigène, qui a été nommé le meilleur joueur de ce troisième test match. On l'écoute.
Obviously, coming here today, I thought we had a good chance of winning, but obviously didn't think it was going to happen that quickly. I sort of, yeah, obviously thought it was going to be really tough. It's a big step up from anything else I've played before. So I was hoping to make a little bit of an impact. There was about 17 of us went away a couple of years ago to commemorate the tour from 1868. We got to learn so much about that tour and what went on. Obviously my family would be very proud, and I'm very proud to win this award.
On passe au tennis pour vous dire que l'Autrichien Dominic Thiem ne viendra pas jouer à l'Open d'Australie. Il se remet toujours de sa blessure à son poignet droit. Et puis Novak Djokovic ne viendra pas pour jouer le tournoi de l'ATP à Sydney. Mais il a été nommé champion des champions par le journal L'Équipe, Eric Mamrut, pour RFI.
Le 11 juillet à Londres, Novak Djokovic est au sommet de sa gloire. En battant Matteo Berrettini en finale, le Serbe décroche non seulement son 6e Wimbledon personnel, mais aussi et surtout le 20e trophée du Grand Chelem de sa carrière. Lui, l'éternel chasseur de Roger Federer et Rafael Nadal, égalait enfin les deux légendes au palmarès avec une 20e couronne. Le 11 juillet, apogée d'une année quasi parfaite pour Novak Djokovic, vainqueur en janvier de l'Open d'Australie et en juin de Roland-Garros en battant Rafael Nadal au passage. Australie, Roland-Garros, Wimbledon, ne manquait donc plus aux Serbes que l'US Open pour réaliser une incroyable passe de 4, le grand chelem calendaire, inédit depuis 1969 et l'exploit de l'Australien Rod Laver. Novak Djokovic, qui pouvait même alors rêver à devenir le premier homme, a signé un exceptionnel grand chelem doré s'il y ajoutait l'or olympique au mois d'août à Tokyo. Mais l'or s'est transformé en plomb. Écrasé par la pression, le numéro 1 mondial a complètement craqué durant l'été. En demi-finale des Jeux olympique contre l'Allemand Alexander Zverev et en finale de l'US Open où, méconnaissable, il a fini en larmes après avoir été surclassé par le Russe Daniil Medvedev. Une double occasion de manquer, de dépasser cette fois ses éternels rivaux Federer et Nadal. Il en aura bien d'autres néanmoins puisque malgré ses 34 ans, Novak Djokovic se voit bien jouer au tennis quelques années encore.
Et puis en mode cyclisme, pour vous dire que Julien Alaphilippe est le champion des champions de France, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Du huis clos d'Imola à la ferveur roublonnée de Louvain, le décor a bien changé et Julien Alaphilippe sent vite que le climat local lui est plutôt hostile. Aux Français, on préfère ici son dauphin de 2020, un enfant des Flandres, bien sûr. Le glouton Wout Van Aert, irrésistible depuis le début de saison, tellement favori qu'on trinque avant l'heure à sa victoire. Roi des Belges contre roi du monde, 268 km, un parcours hérissé de nombreuses côtes, ça promet. Et pour défendre son maillot, Alaphilippe va choisir d'attaquer sur les terres de ses rivaux. Avec ses précieux lieutenants, Cosnefroy, Madouas, Sénéchal, le Français secoue une première fois la course. Loin de l'arrivée, suivront deux nouvelles estocades pour éparpiller le peloton. Avant l'attaque décisive, dans l'une des dernières difficultés du parcours, à moins de 20 km du but, Julien Alaphilippe équipe, se dresse sur ses pédales, fente une foule de Flandriens éméchés et part seul vers un deuxième arc-en-ciel. La concurrence est dans les cordes, scotchée, sonnée. À 29 ans, le coureur de Saint-Amand-Montrond entre un peu plus dans la légende. Premier Français, double champion du monde de cyclisme sur route. Plus très loin du club des 5, Merckx, Sagan, Binda, Fréré, Van Stenbergen, les seuls à compter 3 couronnes mondiales.
Et chez les dames, c'est la judokate Clarisse Abeignenou qui est la championne des championnes de France. Et puis on parle de cyclisme toujours avec le mondial de 2025 qui aura lieu au Rwanda. Laure Broulard, RFI.
L'annonce de l'UCI n'a surpris personne. Kigali faisait déjà figure de favori depuis des mois face à Tanger au Maroc, seule autre ville en lice pour cette première édition sur le continent africain. Le dossier rwandais pouvait en effet se targuer de plusieurs atouts de taille, une topographie vallonnée permettant des épreuves variées et difficiles, mais aussi et surtout sa course nationale, le Tour du Rwanda. Lancée à la fin des années 80 comme un rendez-vous amateur, la course s'est professionnalisée et internationalisée à la faveur d'une politique volontariste du président Paul Kagame qui a fait du sport un outil de soft power. Aujourd'hui, le Tour du Rwanda est connu pour sa bonne organisation et son public enthousiaste et il attire de grandes équipes. À Kigali, on espère donc que les mondiaux permettront de donner un nouveau coup d'accélérateur au développement du cyclisme dans le pays. Reste à savoir si les Rwandais réussiront à se distinguer en 2025. La fédération s'attelle en tout cas à former une nouvelle génération de coureurs pour ce qui sera le plus grand événement jamais organisé dans le pays.
Un mot de ski pour vous dire que la Française Tessa Worley a remporté le slalom géant à Lienz. On écoute le reportage de Christophe Diremzian pour RFI.
Championne du monde de géant a signé sa première victoire de la saison de Coupe du Monde à Linz en Autriche. Elle a profité de l'absence forcée de l'Américaine Michaela Schifrin et de la Suissesse Lara Gut-Berami, toutes deux positives au Covid-19, pour s'imposer devant la Slovaque Petra Vlova et la Suédoise Sarah Hector. La skieuse du Grand Bornand remporte la 15e course de sa carrière en ayant eu de très bonnes sensations.
Ma course aujourd'hui était vraiment super, je me suis vraiment éclatée. Je me sentais très bien sur mes skis. Je sens que mon ski est en place et je peux me faire confiance et je peux vraiment être à l'engagement. Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir gagner des courses. Et aujourd'hui, je suis juste très très heureuse que ce soit la victoire. Je ne compte pas forcément les victoires. Aujourd'hui, je suis juste très heureuse de continuer à gagner. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant. Et je sens que je suis toujours en forme et que je skie toujours au niveau. Donc ça, c'est très très satisfaisant.
Tessa Worley qui sera de retour sur le circuit le 8 janvier à Maribor en Slovénie. Chez les hommes, c'était la descente de Bormio en Italie qui était au programme. Victoire à domicile de Dominique Paris devant deux Suisses, Marco Odermatt et Nils Hintermann.
Et maintenant, on passe au foot avec quelques nouvelles. En bref, avec Clémentine Pavlovski et Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Et le compteur Covid s'emballe en France, Thomas, avec plus de 200 000 nouveaux cas annoncés aujourd'hui. Et les clubs de foot sont aussi touchés.
Embêtant à l'heure de la reprise, après cette courte trêve hivernale, 5 joueurs seraient ainsi concernés à Lorient, 7 à Lyon, encore plus à Angers, même si le nombre n'est pas précisé, de quoi sans doute perturber le calendrier de reprise.
Oui, d'autant que de nombreux clubs français seront aussi privés pour les prochaines semaines de leurs internationaux africains sélectionnés pour la CAN. À 11 jours du début de la compétition, l'Égypte vient d'ailleurs de publier sa liste de joueurs retenus.
Avec sans surprise Mohamed Salah de Liverpool en tête d'affiche, El Neni, le milieu d'Arsenal, est là lui aussi. Un peu plus tôt avant l'Égypte, le Zimbabwe avait également communiqué son groupe. Y figure Tino Kadewere, le Lyonnais, mais pas Marshall Mounetsi, le Rémois, forfait sur blessure.
Et puis les clubs anglais et français laisseront partir les joueurs d'origine africaine le 3 janvier pour qu'ils puissent participer à la CAN de 2022. On écoute Cédric de Oliveira pour RFI.
C'est une décision prise à contre-cœur, mais elle aura le mérite d'apaiser les tensions. Dans un courrier adressé par la FIFA au Forum des Ligues Mondiales hier, il est écrit que la CAF permet à des clubs européens de conserver leurs joueurs jusqu'au 3 janvier dans certaines circonstances. Une dérogation valable pour ceux qui sont concernés par des matchs officiels jusqu'à cette date. Les membres de la Première Ligue notamment peuvent donc souffler. Les 40 internationaux qui devaient initialement rejoindre leur sélection pourront disputer les deux journées de championnat prévues dans les prochains jours. Une victoire pour ces clubs après les multiples pressions exercées depuis plusieurs semaines autour de la CAN. Après avoir tenu bon et maintenu la compétition, la CAF fait donc une ultime concession pour mettre fin au bras de fer. Mais la préparation des 24 pays engagés va être forcément perturbée. Pour la plupart déjà réunis ou presque, les sélections vont être privées de plusieurs joueurs, parfois majeurs. Certains, à l'image de Sadio Mané et Riyad Mahrez, n'auront peut-être disputé aucun match de préparation avant de fouler les pelouses camerounaises.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.